OK, on va commencer notre 40e leçon. Aujourd'hui, dans une série sur le péché, les 10 commandements, la grâce. Aujourd'hui, on va voir la souveraineté de Dieu sur la création. Alors, dans nos dernières leçons, on avait examiné une définition de la souveraineté de Dieu. Puis, on avait regardé, on avait observé que l'Éternel règne. Il règne parce qu'il a le droit de régner, pour deux raisons, parce qu'il est le créateur de toutes choses et que toutes choses lui appartiennent. On avait également regardé la nature de son pouvoir, qu'il était absolu, qu'il détient tous les pouvoirs, qu'ils soient législatifs, exécutifs ou judiciaires, qu'il ne rend de compte à personne et qu'aucune forme d'opposition ne lui est possible. Quant à l'étendue de son règne, nous avions vu qu'il s'étendait sur les anges bons et mauvais, sur toute la création, sur les hommes individuellement et collectivement, et sur l'attribution du salut et sur ses saints. On va regarder aujourd'hui le fait qu'il domine sur toute la création, sur l'univers matériel, sur les étoiles, sur les planètes, sur les éléments, sur le monde animal et sur le monde végétal. Alors, on va regarder le fait que Dieu règne sur le monde matériel. Alors, les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu contrôle tout l'univers matériel de façon constante et de façon absolue. On va regarder d'abord sur les étoiles et les planètes. On va regarder différents versets. Ésaïe, chapitre 40, versets 26 à 28. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » On a également Ésaïe, chapitre 38, versets 7 à 10. « Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. » Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie, sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Alors, à l'époque, la manière de contrôler le temps, de regarder l'heure qui était dans le jour, c'est qu'il y avait comme un poteau. Puis le soleil faisait en sorte que l'ombre changeait. Alors, bien entendu, dans le courant de la journée, elle aurait dû s'en aller dans un certain sens. Et là, il l'a fait reculer de 10 degrés. Alors, ça veut dire que ça impliquait que le soleil lui-même soit changé dans sa course. Alors, il y a vraiment le contrôle sur les planètes, les étoiles. On a également Job 38, versets 31-33. Nous-tu les liens des Pléiades, où détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et connais-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règnes-tu son pouvoir sur la terre? » Alors, sur les planètes et les étoiles, mais également sur tous les éléments. Alors, la Bible nous donne une multitude d'exemples que le Seigneur contrôle de façon absolue tous les éléments. Rappelons-nous le fleuve Jourdain arrêté pour faire traverser le peuple d'Israël lors de la conquête de la terre promise par Josué, de la traversée de la mer Rouge après la sortie d'Égypte et de la tempête apaisée par Jésus-Christ. Alors, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples, mais ça va être suffisant. Josué, chapitre 3, versets 10 à 17. Histoire très intéressante. Josué dit à ceci, « Vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est du côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Alors, faut se souvenir que c'est arrivé comme au printemps. Quand on voit une rivière au printemps là, qui descend, ça descend pas à peu près. Faire arrêter ça, puis que les eaux reculent, ça prend vraiment du contrôle de la puissance. On a aussi l'histoire de la mer Rouge, Exode 14, versets 16 à 30. Alors, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Alors, on a aussi l'exemple dans Matthieu, chapitre 8, versets 24 à 27, le Seigneur Jésus lui-même qui contrôle une tempête. Et voilà, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Maintenant, les Écritures nous parlent d'autres éléments, les eaux, le vent, la gelée. Psaume 147, versets 15 à 18. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il renvoie sa parole et ils les font. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Maintenant sur la grêle, psaume 148, versets 7 et 8. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstre marin, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux, qui exécutez ses ordres. Alors maintenant aussi sur les éclairs, sur la pluie, sur la rosée, Job 38, versets 25 à 35. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frimas du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit en chaîne? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordes de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Maintenant aussi sur la glace, psaume 37, verset 10. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Sur la neige, il dit à la neige, tombe sur la terre. Il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Alors, on a aussi sur les nuages, Jérémie, chapitre 51, versets 15 et 16. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Les récoltes également, on sait qu'il y a une multitude d'exemples dans l'Ancien Testament où le Seigneur corrigeait son peuple en permettant qu'il y ait des mauvaises récoltes ou récompensait son peuple en permettant qu'il y ait des bonnes récoltes. Oui. Psaume 65, versets 9 à 13. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Alors l'Éternel se sert souvent des éléments bienfaisants comme expression de son amour et des éléments destructeurs comme instrument de discipline et de châtiment. Maintenant, on va regarder qu'il a aussi le contrôle parfait sur le monde végétal. Alors on le sait, les Écritures nous l'apprennent, toute créature vivante est dans les mains de Dieu. Job chapitre 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Jonas, chapitre 4, versets 4 à 11. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin. Il s'éleva au-dessus de Jonas pour pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Matthieu 6, versets 28 à 30. Pourquoi et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ézéchiel 36, versets 29 à 31. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Maintenant, on voit aussi autre point que le Seigneur contrôle de façon absolue le monde végétal, le monde animal. Donc, il a le contrôle sur les oiseaux. Un roi, chapitre 17, versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Alors l'Éternel contrôle les oiseaux, les insectes aussi. Dans Exode 8, versets 16 à 24, on a tout le passage où l'Éternel commande aux insectes pour punir la dureté de cœur de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne le purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, « je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozan, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. On a aussi le fait qu'il contrôle le poisson dans l'histoire de Jonas. Jonas, chapitre 1, verset 17, et aussi le chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. On a aussi dans Luc, chapitre 5, verset 4 à 8, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Les bêtes aussi dans Ésaïe, chapitre 34, versets 11 à 16. « Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette, et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais. Les ronces et les chardons dans ses forteresses sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages. Et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvra et recueillera ses petits à son ombre. Là, se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. » Alors, on termine tout simplement avec les versets, les psaumes 148, 1 à 14. Alors, quand on examine toutes ces choses-là, c'est vrai que ça devrait nous mettre à cœur de louer l'Éternel pour son souverain contrôle sur toutes choses. Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, ils ont été créés. Les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louer l'Éternel. Alors, des fois, on fait juste les lire, les psaumes, mais ils nous disent bien que toute la création, ça devrait louer Dieu. Alors, peut-être que ça serait une bonne habitude dans nos prières de trouver un temps de louange au Seigneur pour le remercier pour toutes ces choses-là. Mm. Comme c'est si bien dit dans ces psaumes-là. Psaume 149, maintenant, louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier leur roi avec des chaînes. Et leur grand avec des sceptres de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Alors, la quantité de fois que le mot louer est là à l'impératif, si on les compte à partir du psaume 145 aller jusqu'au psaume 150, il y en a énormément. Psaume 150, vraiment le psaume de conclusion du livre des psaumes. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alors tout notre quotidien nous donne des occasions de louer le Seigneur pour ses innombrables bontés. Qu'on ne se prive pas de ce plaisir. Amen. Amen.